Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Lorgnette. Aujourd'hui, retour sur une table ronde enregistrée en décembre dernier à la Cité du Numérique et qui avait pour intitulé « Cybersécurité au quotidien, prévenir, signaler, alerter ». Avec nos invités, nous revenons sur les menaces de plus en plus nombreuses et de plus en plus dangereuses qui pèsent sur notre vie numérique et aussi sur les moyens de s'en protéger. Bonne écoute! J'accueille donc pour cette table ronde Laurent Verdier, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'organisation de cette invitation. Toujours un plaisir pour nous d'être au contact de nos publics. Donc Laurent Verdier, directeur sensibilisation au sein du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance. Les trois mots sont très importants. De victimes de cybermalveillance, donc qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Très content d'être ici, d'autant plus qu'au niveau de cette table ronde, on est un petit peu en famille puisque cette plateforme, cette idée folle entre 2015 et 2017 a été incubée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. Et je salue également la représentante de la CNIL qui a rejoint le groupement d'intérêt public qui opère la plateforme il y a quelques années maintenant et avec laquelle nous travaillons de manière conjointe et très complémentaire. Voilà.
Très bien, on reparlera évidemment de cette plateforme au cours de cette table ronde. À côté de vous, donc, le major Laurent Remise, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, vous présenter puis
présenter. Je suis le major Laurent Remise du groupement de gendarmerie de Loire-et-Cher, basé à Blois. Et j'exerce au sein de la BDRJ, la Brigade départementale d'identification et de renseignement judiciaire. Je gère en gros tout le cyber du département à l'aide de mon camarade qui n'est pas là aujourd'hui. On va pouvoir détailler un petit peu par la suite tout ce qui est possible de faire et tout ce qu'il faut faire.
Vous êtes une équipe de deux
sur... On est une grosse équipe de deux sur le département et on gère tout ce qui va être lié au cyber sur le département.
On va y revenir, ça me semble peu, mais on va y revenir peut-être.
On y reviendra.
Mélodie Fourez, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, vous présenter l'ANSSI ?
Donc déjà, je prie de m'excuser parce que je n'ai pas de voix, c'est pas que je ne voudrais pas répondre à vos questions, mais je suis un peu limitée aujourd'hui. Donc Mélodie Fourez, donc, je suis la représentante effectivement de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc pour la région Centre-Val de Loire. Donc l'ANSSI, c'est une autorité de l'État qui dépend du secrétariat général de la Défense nationale, donc sous l'autorité du Premier ministre. Donc on est là pour assurer la sécurité de l'État et on va dire des entités qui sont sensibles, qui ont un impact, au quotidien sur nos concitoyens. Mais on est là aussi, pour accompagner l'ensemble des entités de notre territoire avec l'ensemble de nos partenaires, dont cybermalveillance, mais aussi les centres de réponse à incidents, par exemple. Donc, c'est tout un écosystème qu'on a appuyé à la création et que l'on anime au quotidien pour assurer la cybersécurité, la cyberrésilience de notre nation.
Donc, on parle de cybersécurité par opposition au terme de cybercriminalité, de cybermalveillance. Déjà, un point sémantique. Est-ce que la cybercriminalité et la cybermalveillance, pour vous trois, c'est le même mot ou vous faites une distinction entre ces deux termes ?
Alors, de notre côté, si on regarde, on a notamment créé un cyberdico, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver dans toutes ces terminologies qui sont en plus parfois anglophones. Mmh. Donc c'est vrai que pour nos concitoyens, c'est pas toujours évident. Donc pour nous, la cybersécurité, c'est vraiment quand on fait attention à la sécurité de systèmes d'information. Donc dans une identité, assurer la sécurité du périmètre vraiment du système d'information pour éviter notamment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les fuites de données par des attaques. La cybercriminalité, c'est beaucoup plus large. C'est, je dirais, toute atteinte qui utilise des moyens numériques. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, toutes les fuites de données, toutes les données que l'on même donne au quotidien par l'utilisation du numérique au sens large, on n'a pas besoin d'avoir une atteinte à notre système d'information, une atteinte à nos téléphones, à nos ordinateurs, pour que derrière on utilise ces moyens numériques pour faire des escroqueries notamment.
Sur le terme cybercriminalité, cybermalveillance. Alors, cybermalveillance, c'est peut-être juste parce que la plateforme a ce nom-là, mais est-ce que c'est un terme qui est utilisé dans votre pratique quotidienne de vos métiers où vous parlez de cybercriminalité ?
Alors nous, on parle de cybermalveillance pour englober en fait tous les actes, tous les agissements qui peuvent porter préjudice à un particulier, à une entreprise, une association, une collectivité territoriale, quel que soit son emplacement sur le territoire national. Donc la notion de préjudice, bah, moral, physique, financier, voilà, c'est vraiment un spectre très large. Et sur le parcours d'assistance victime qui est devenu le 17cyber.gouv.fr depuis presque une année maintenant, on inventorie 51 cybermalveillances différentes, sachant que certaines sont issues, par exemple, de l'hameçonnage, mais qui ont été portées à un tel état de sophistication qu'on a décidé d'en faire une cybermalveillance autonome à part parce que elle occasionnait de très nombreuses demandes de recherche, d'assistance et d'aide de la part de victimes.
Vous parliez d'hameçonnage. Donc chaque année, la plateforme sort un rapport d'activité sur les données dont elle dispose. Donc pour 2024, on se rend compte que le hameçonnage, le piratage de compte et le faux support technique sont les trois principales menaces identifiées par la plateforme. Elles représentent à elles 60% des menaces cyber. Il y en a 10 qui sont référencées, donc les autres se partagent des miettes, on va dire. Est-ce qu'on peut rappeler, donc, est-ce que vous pouvez définir, donc vous parliez de hameçonnage, donc à quoi correspond du hameçonnage, à quoi correspond un piratage de compte et à quoi correspond un faux support technique?
Alors, je vais le faire, mais le plus important, c'est de dire que je ne suis pas là pour vous emmener au musée des horreurs et vous faire peur et vous paralyser. Derrière, c'est important de décrire ce qu'on perçoit, mais c'est surtout encore plus important de fournir des ressources et des moyens de mieux s'en protéger. Mais ça, on l'évoquera plus tard. Oui, tout public confondu, donc particulier, entreprise, collectivité, c'est l'hameçonnage qui remporte la timbale en 2024. Il y a de très fortes chances que ça le reste en 2025. Faux mail, faux SMS, appel téléphonique bidon par le biais duquel un interlocuteur va tromper, leurrer, mettre en place une mise en scène pour que la victime communique des éléments personnels, financiers, confidentiels, suive un lien, ce qui va intéresser les attaquants, ce qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. Alors, vous comprenez bien que là, tout à l'heure, on a parlé d'attaques techniques, sophistiquées, etc. Mais là, on est vraiment dans le levier humain, dans le levier psychologique. Alors, il y a un vieil adage en sécurité des systèmes d'information qui dit que la vulnérabilité est entre le clavier et la chaise. Et plus les années passent, plus cet adage manquiquine. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'utilisateur, aujourd'hui, est au centre des attaques. Il est beaucoup plus facile pour un attaquant d'essayer de piéger quelqu'un en le trompant, en le mettant dans une posture anxiogène, en le stressant ou au contraire en l'appâtant, que de coder, de programmer un code qui va contourner des dispositifs parfois certifiés par l'ANSSI. Donc aujourd'hui, la clé des attaques, pour nous, elle est vraiment au niveau de l'utilisateur. Et c'est sur cet utilisateur qu'il faut travailler et donc progresser. Donc l'hameçonnage, le piratage de compte en ligne qui touche également énormément les professionnels et les collectivités. Nous avons démultiplié les accès, les comptes, les services sur Internet. Et pour en revenir à la table ronde précédente, malheureusement, nous ne protégeons ces accès et ces comptes et ces services trop souvent qu'avec des mots de passe trop facilement devinables, trop faibles, ou alors un mot de passe fort qui va respecter les critères de l'ANSSI, avec le nombre de caractères, les caractères spéciaux, les chiffres, etc., mais que je vais utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est-à-dire que si les attaquants récupèrent ce mot de passe fort d'une manière ou d'une autre, ils ont entre les mains aujourd'hui l'intégralité de mon identité et de mes activités numériques. Alors, la troisième cybermalveillance que vous évoquez, l'arnaque au faux support technique, c'est un vieux truc, ça, mais qui perdure, qui s'améliore. Et aujourd'hui,
ça correspond à quoi concrètement?
Concrètement, vous naviguez tranquillement sur Internet. Soudain, une fenêtre de votre navigateur particulièrement anxiogène, parfois accompagnée d'une sirène qui vous vrille les oreilles, vous informe paisiblement que votre ordinateur est piraté, qu'il a été attaqué, que toutes vos données sont menacées. Heureusement, Microsoft, Windows, Apple, enfin l'un des opérateurs que nous connaissons tous, vous propose un numéro de téléphone gratuit, ça ne va pas le rester longtemps, pour vous dépanner. Donc c'est un faux dépannage, puisque bien sûr, il n'y a que la mémoire de votre navigateur qui a été attaqué et qui fait en sorte que cette fenêtre persistante, vous ne pouvez pas l'enlever, il faut le plus souvent redémarrer l'ordinateur, nettoyer le cache du navigateur, c'est-à-dire tous les cookies qu'il a intégrés, toutes les cochonneries qu'il a intégrées, pour retrouver un navigateur propre sans cette fenêtre. Mais là, on est dans le cœur du problème, on joue sur l'humain, on joue sur la peur, on joue sur l'incompréhension, et donc, dans la plupart des cas, et ça c'est vraiment une cybermalveillance malheureusement, qui réussit le plus chez nos seniors, on va appeler ce faux service après-vente, on va tomber sur quelqu'un qui parle parfaitement français, qui va vous demander dans un premier temps de prendre la main sur votre ordinateur à distance pour soi-disant vous installer un antivirus ou vous dépanner. Et bien sûr, dans le meilleur des cas, il va installer un truc qui ne sert à rien, et dans le pire des cas, il va servir, puisque vous lui avez donné l'autorisation. Et donc ça, c'est vrai que ça perdure. Je voudrais quand même signaler que pour 2025, tout public confondu, il y a quand même le risque potentiel que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la violation de données, rentre sur ce podium top 3, parce qu'effectivement, côté particulier, je confie mes données à un opérateur, cet opérateur se fait pirater, quel qu'il soit, et mes données vont être derrière réutilisées, très rapidement d'ailleurs, de manière frauduleuse. Et quand je suis une organisation, je suis piraté, quelqu'un accède illégitimement à mon système d'information et va s'emparer des données de mes clients, de mes agents, de mes prestataires. Bref, c'est la fête à la maison. Et derrière, réutilisation frauduleuse au préjudice des titulaires, des propriétaires de ces données.
Je cite rapidement donc les autres causes de malveillance. Donc la violation de données, vous le disiez, qui pourrait être sur le podium 2025. Là, je répète, ce sont les données 2024. Viennent ensuite les virus, le cyberharcèlement, les faux conseillers bancaires, oui, le spam, la fraude à la carte bleue et la fraude au virement.
Tout à fait. Un tout petit mot sur les professionnels,
ouais,
avec une augmentation significative cette année de tout ce qui est arnaque au RIB falsifié, mm-hmm, ou la facture falsifiée, qui fait que une organisation va réaliser un paiement, un règlement qu'elle pense être légitime sur un compte bancaire, lui qui ne l'est pas, puisque le RIB ou la facture ont été falsifiés suite à un piratage de compte en ligne, souvent de l'artisan ou du prestataire. Et effectivement, là, on tombe vraiment, ça augmente de manière significative aussi, essentiellement au préjudice des professionnels, donc entreprises et même parfois au niveau des collectivités.
Est-ce qu'on peut donc expliquer les évolutions de ces jeux de passage du 3 au 4, comment le numérique fait progresser certaines fraudes, certaines malveillances, comment on explique certaines poussées de certaines arnaques?
Mais il n'y a pas vraiment de poussée du numérique pour les nouvelles arnaques, c'est une évolution, ouais, c'est une adaptation des cybercriminels à la technologie pour pouvoir justement faire les mêmes arnaques qu'ils ont toujours fait, sauf que d'habitude, ils vous rencontraient dans la rue, ils vous demandaient tout un tas de choses, et ils essayaient de vous vendre des dictionnaires, des encyclopédies, et maintenant, c'est la même chose, sauf que c'est via le numérique et via les réseaux.
Finalement, les modes d'action ont peu changé, c'est le numérique qui a réorganisé...
C'est les outils, en fait, qui sont à disposition des criminels.
C'est ça. Je pense également que ce sont nos habitudes qui se sont radicalement transformées. Qui attendait un colis avant les confinements successifs, mmh, et la transformation de nos habitudes, l'accélération et l'amplification de nos habitudes numériques.
Avec ce SMS, votre colis n'a pas pu être déposé, par exemple.
Voilà.
On commande tellement de colis que des fois on se dit « Ah oui, j'ai peut-être commandé un colis, mais... »
Je vais vous raconter une toute petite histoire. La première semaine du premier confinement, alors que tout le monde était chez soi et la seule fenêtre vers le monde était Internet, notre parcours d'assistance victime à cybermalveillance.gouv.fr a connu un pic de 400%. La première semaine, 400% de demandes d'assistance, donc de victimes potentielles pour les seuls faits d'hameçonnage. Faux sites de gel, faux sites de gants, faux sites de masques. Ensuite, il y a eu les fausses attestations. Et ensuite, il y a même eu le lien frauduleux pour l'application Tous Anti-Covid. Alors ça s'est passé un peu plus tard, mais c'est vous dire que les attaquants sont super réactifs et surtout super imaginatifs.
C'est très contextuel, forcément, quand il y a des bonnes affaires. On a tendance à vouloir cliquer sur les publicités alléchantes. Si vous devez recevoir des colis, forcément, vous êtes beaucoup moins vigilant sur un faux SMS qui arriverait au milieu de légitime. Mmh. Donc, il y a vraiment aussi, effectivement, nos habitudes de consommation, nos usages du numérique. Et c'est vrai que toutes les fuites de données qu'on voit quasiment au quotidien facilitent aussi toutes ces arnaques.
Est-ce qu'on a des chiffres, Major, en Loire-et-Cher, de ce qui nous occupe? Est-ce que c'est aussi le hameçonnage, les trois premiers, le piratage de comptes?
Actuellement, concernant les entreprises, c'est essentiellement sur le département des attaques, des falsifications de factures avec des faux RIB qui passent derrière. Et concernant les particuliers, ça va être les faux conseillers techniques, notamment les arnaques avec le passage d'un courtier qui va venir ramasser la carte bancaire en disant que voilà, vous avez été piraté, que votre carte est falsifiée. Donc, il vient récupérer pour pouvoir après vous redonner notre carte un peu plus tard et qui, en fait, utilise les données qu'il a récupérées et notamment le mot de passe que vous allez lui donner gentiment pour pouvoir de faire des achats gré. Derrière ou alors des retraits instantanés sur beaucoup de petites sommes. On ne va pas être sur des centaines de milliers d'euros, on ne va pas vider un banque, mais ça va être quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, afin de récupérer rapidement un minimum d'argent et avec une manière d'opérer qui est facile et qui touche un peu tout le monde.
Évidemment, la question suivante, c'est d'où viennent toutes ces menaces ? On pense aux États, on parle aussi, quand ça fait un peu la une des médias, du terme de brouteur. Est-ce qu'on peut présenter les menaces, d'où elles viennent et qui les met en place ?
Alors, nous, aujourd'hui, à l'échelle nationale et sur les incidents qui nous sont remontés, et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important, si vous voulez qu'on vous donne des statistiques ou une tendance sur finalement quels sont les événements et quels sont les risques, c'est qu'il faut que l'information, elle nous remonte. Donc, si les gens ne déposent pas plainte, s'ils ne signalent pas, par exemple, sur le 17 cyber, les atteintes qu'ils pourraient avoir ou les escroqueries, nous, on est aveugle. On ne peut pas savoir. Et si on ne connaît pas la menace, on ne peut pas la contrer. Et on ne peut pas vous donner les bonnes recommandations. Et ça, je pense que c'est un élément important à avoir en tête et qui peut être aussi transmis au public que vous suivez, les uns et les autres. Parce que si on ne connaît pas cette menace, on ne peut pas lutter contre. C'est un élément qui me semble essentiel. Ensuite, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation et cette augmentation, elle est constante. Le haut du panier, c'est forcément la cybercriminalité. Et la cybercriminalité, c'est très difficile de venir d'où elle vient. Et la cybercriminalité, elle est diffuse. Elle peut être nationale, elle peut être internationale. Aujourd'hui, les cybercriminels, on en a à l'est, on en a à l'ouest, au sud, au nord. Il n'y a pas de nationalité. Alors, il y a des pays qui sont plus ou moins coopérants. Donc forcément, les criminels ont tendance à aller dans les pays où on ne va pas aller les chercher. Voilà. Donc chercher dans l'actualité récente, vous identifierez forcément les pays qui ne nous veulent pas que du bien. Et c'est vrai qu'on est dans un temps où la menace, elle est hybride. On voit des guerres un peu partout. Le terrain, il est à la fois dans le monde physique, mais aussi et surtout dans le monde virtuel.
Effectivement. En plus, on parle beaucoup de cybercriminels. Ça fait toujours très, très, très peur. Mais je pense que d'abord, le premier point à vraiment avoir, ça va être l'instruction et un travail sur soi-même. Au lieu d'avoir d'abord peur des autres, il va falloir penser qu'est-ce que moi je fais de mal, essentiellement. Petit exemple, pendant la première table ronde, désolé pour les premiers intervenants, je n'ai pas tout écouté, parce que j'avais pris mon téléphone et j'ai regardé, alors c'est quelque chose que je fais à chaque fois, et j'ai regardé, j'ai juste ouvert mon Bluetooth avec une petite application et j'ai regardé tout ce qui était connectable sur la salle. Je me suis rendu compte que bon, il y avait plusieurs montres connectées qui étaient ouvertes, qui étaient disponibles. On pouvait voir ce que c'est. J'ai même la photo d'une montre connectée. Comme ça, j'ai directement le modèle. Pourtant, vous êtes tous des personnes avec la connaissance, un minimum de connaissances en informatique, un minimum de présence sur le cyber, jusqu'à même un téléphone de marque Oppo 76, le modèle, je vais vous donner le modèle,
se lève.
Peut-être que la personne se reconnaîtra, un Oppo A76, voilà, par exemple, j'ai son adresse Bluetooth, j'ai le numéro de série du téléphone, voilà, on parle des cybercriminels, mais en fait, déjà, il faut d'abord penser à soi, dire qu'est-ce que je permets d'obtenir aux cybercriminels. Il faut vraiment se méfier de ça. Après, les cybercriminels, comme l'a dit ma camarade, il y en a partout. Il y en a dans les États, il y en a dans certains pays. Alors, ils peuvent travailler pour les États, ils peuvent travailler pour des associations criminelles, ça peut être notre voisin, ça peut être n'importe qui. Un Wi-Fi qui est mal sécurisé, le voisin, c'est facile de se connecter dessus et de faire n'importe quoi. Donc voilà, le terme criminel peut être assez vague, mais il faut déjà, je pense, déjà travailler sur
ça. Et un peu anxiogène, oui.
Et voilà. Et après, le mot que j'utilise le plus avec les victimes, c'est de la méfiance. La méfiance, c'est... alors moi, je vais plus être dans le cas de faire peur, mais vraiment, il faut se méfier de tout le monde, malheureusement.
À Cybermalveillance GouvFR, on n'a pas de mission d'investigation et d'identification des auteurs. Hein. Mm-hmm. C'est du ressort essentiel des forces de sécurité intérieure. Néanmoins, par rapport à ce qu'on perçoit, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a manifestement affaire par rapport à ce que nous percevons, qui sont, je le rappelle, des cybermalveillances de masse. Mmh. On a manifestement affaire à du crapuleux, principalement intéressé par vos données financières, bancaires, d'identité pour pouvoir effectivement derrière louer des voitures ou ouvrir des faux dossiers de crédit. Donc effectivement, ça demande quand même un minimum d'organisation, de segmentation au niveau des équipes ou même pour les rançongiciels, hein, les ransomware concernant les professionnels. Il y a ceux qui vont coder, il y a ceux qui vont diffuser et il y a ceux qui vont s'occuper de récupérer la rançon. Maintenant, les cybermalveillances, c'est tellement vaste. Le cyberharcèlement, ça peut être le petit gamin de la voisine. Donc effectivement, la vigilance, elle est non pas la paranoïa, mais la vigilance et la responsabilité, elle doit être aujourd'hui au quotidien.
Quel est le chemin d'une prise en charge? Donc là, ma question, elle s'adresse à tous les trois. Comment est pris en charge donc une victime de cybermalveillance? Par où ça commence? On appelle qui? J'appelle l'ANSSI, j'appelle la gendarmerie, j'appelle la CNIL.
D'abord, nous, ce sera forcément un point de passage obligatoire.
Ouais.
Après, pas forcément le premier dans la chaîne du pratique, mais ce sera obligatoire. Alors, je l'espère, j'ai peut-être mes camarades avant.
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on fonctionne tous les uns avec les autres déjà. Aller vers ceux que vous connaissez, mais même aller chercher du conseil en proximité. Donc là, vous êtes tous maintenant des publics qui vont être avertis. Vous pouvez recommander déjà les différents points d'entrée. Vous avez le point d'entrée, effectivement, du 17 cyber. Peut être un point d'entrée, mais qui est un point d'entrée numérique. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué si on n'a pas d'accès à son numérique, parce que par exemple, c'est son téléphone qui s'est fait hacker et c'est notre seul moyen numérique, donc forcément, ça peut être un peu compliqué. On a d'autres systèmes qui sont les centres de réponse à incidents. En Centre-Val de Loire, pour les petites entreprises, pour les associations notamment, vous avez accès à ce centre de réponse à incidents qui s'appelle Cyberréponse. Pour les plus grosses entités, vous pouvez toujours appeler de toute façon l'ANSSI. Au pire, on redescendra vers le bon centre de traitement. C'est vrai que nous, à l'ANSSI, donc on a effectivement ce qu'on appelle nos cyberpompiers, qui sont là essentiellement pour assurer la sécurité des entités nationales, des entités, ce qu'on appelle les OIV, les OSE, les opérateurs d'importance vitale et de services essentiels. Et en fonction de leur capacité de charge, en fonction de l'impact, effectivement, on peut prendre d'autres entités. Mais c'est vrai que pour les publics que vous adressez, notamment les particuliers, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr est tout à fait le bon point d'entrée.
Tout à fait. En fait, j'ai évoqué cette idée folle de lancer une plateforme pour trois types de publics en 2017, hein, donc les particuliers, les PME, les TPE, les collectivités, avec cette mission d'assistance qui était déjà prégnante, parce que accueillir des victimes sur une plateforme, c'est loin d'être évident. Il faut répondre à ses besoins. Et vous le savez bien, quand on est victime d'une cybermalveillance, quelle qu'elle soit, en général, c'est la panique à bord. Hein, on vient de faire un virement, on vient de te transmettre des données essentielles, financières. Et c'est pour ça que ce parcours d'assistance victime nous accompagne depuis le début. Néanmoins, nous pensions qu'il manquait quelque chose par rapport à tout le spectre des préoccupations que peut avoir une victime quand elle vient d'être impactée par une cybermalveillance, quelle qu'elle soit. Et cet aspect, c'était la possible mise en relation avec un policier ou un gendarme dans l'optique d'un accompagnement vers une plainte. Et ça, c'était essentiel. C'est pour ça qu'en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, ce parcours d'assistance victime historique est devenu le 17cyber.gouv.fr, qui existe maintenant, on va fêter son anniversaire la semaine prochaine, c'est un an, et qui se découpe en quelques paliers principaux. Vous venez sur le 17 cyber et on va d'abord vous aider à faire un diagnostic de ce qui se passe. Parce que vous doutez bien que la première chose, la plus urgente, c'est de mettre un nom sur la cybermalveillance de manière derrière à vous conseiller et à vous proposer des orientations pertinentes en lien avec cette cybermalveillance. On ne va pas agir de la même manière avec quelqu'un qui est victime d'une arnaque à la fausse livraison de colis, d'un piratage informatique, donc une intrusion concrète sur un système d'information ou encore de cyberharcèlement. Donc avec le diagnostic, on va établir ce qui se passe. Associé à ce diagnostic, vont être adressées des recommandations d'urgence. En sécurité routière, on parle d'aggraver l'accident. Et ben là, c'est pareil. Ça va être des conseils tout simples, mais qu'on n'a pas forcément en tête quand c'est la panique à bord. Prévenir vos contacts, alerter votre banquier, faire opposition, changer vos mots de passe, etc., etc. Alors ici, on est entre nous, on est au chaud. Bah, tout le monde a ça en tête, bien sûr. Je vais pas les oublier. Or, bah, quand on vient de se faire avoir, qu'on est furieux, parce que il y a aussi tout cet aspect de victimisation qu'on oublie souvent, la culpabilité. Et quand on vient de se faire balader par un faux conseiller bancaire et un coursier qui est venu récupérer votre moyen de paiement et qui est en train de vider tous les distributeurs automatiques autour de chez vous avec votre carte de crédit, c'est vraiment la panique à bord. Ensuite, on va adresser à la victime un ensemble de recommandations pour aller sur des plateformes dédiées à ce type de cybermalveillance en fonction de l'action qu'elle veut faire. Signaler les faits, déposer plainte, avoir une écoute spécifique, donc ça va être la plateforme Perceval qui est opérée par la gendarmerie nationale, la brigade numérique de la gendarmerie nationale, ça va être Signal Spam, ça va être internetsignalement.gouv.fr, ça va être voilà tout un tas de France Victimes, le 3018, et enfin, mise en relation possible avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme si la cybermalveillance a endommagé votre ou vos terminaux, vos matériels ou vos logiciels. Et depuis le 17 cyber, la possibilité pour certains types de cybermalveillance d'être mise en relation avec un praticien de l'investigation judiciaire, donc soit un gendarme, soit un policier, pour être accompagné à la plainte, et ceci tout public confondu.
Mélodie, le numéro de téléphone.
Le fameux.
Le fameux. Excusez-moi. Donc le 0805 69 15 05. Donc ça, c'est cyber-réponse. Et je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Laurent. Vous voyez que ce n'est pas évident, effectivement, en plus dans un contexte assez anxiogène, etc., d'avoir les bons réflexes. Donc, ça veut dire que ça s'anticipe. Il faut y penser avant, se dire, voilà, s'il m'arrive quelque chose, comment je fais? Est-ce que j'ai les éléments, du coup, papier? Si je n'ai pas accès à mes éléments numériques, est-ce que j'ai les bons numéros de téléphone? Est-ce que j'ai la bonne procédure? Etc. Et donc ça, vous avez un certain nombre de recommandations qui sont faites, notamment disponibles sur cybermalveillance.gouv.fr pour accompagner les personnes, quel que soit leur statut, que ce soit des personnes à titre individuel ou des entreprises, justement avoir la bonne checklist. I love my computer, you make me feel alright. Every waking hour and every lonely night. You give to me predictable errors and no identity, and it's never been quite so easy. I've never been quite so obvious. All I need to do is click on you, and we'll be joined in the most soulless way, and we'll never ruin each other's day. 'Cause when I'm through, I just click and you just go away. Get so turned on when I turn on you. I love my computer, you never ask for more. You can be a princess or you can be my whore, and it's never been quite so easy. I've never been quite so
Major Laurent Remise, quels sont vos moyens d'action? Comment vous procédez? J'ai déposé plainte, j'ai été arnaqué via un mail auquel j'ai répondu et je m'en suis rendu compte plus ou moins tard. Quels sont vos moyens d'action, votre cheminement de procédure?
Alors déjà, avant d'entamer l'enquête, le point principal, ça va être d'accueillir la victime. Mm-hmm. D'accueillir la victime, comme on l'a dit, c'est anxiogène. Voilà, on a souvent un sentiment de honte. Et donc, du coup, en gendarmerie, on va essayer de recevoir la victime avec déjà le plus de bienveillance possible, mais aussi d'essayer d'accompagner et de récolter un maximum d'éléments. Pour cela, nous ne sommes que deux vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Mais pour ça, on a formé au sein de toutes les brigades de gendarmerie du département, et partout ailleurs en France, ça se fait également, on a formé des correspondants qui vont avoir une première connaissance justement de toutes les infractions liées à la cyber et de pouvoir poser les bonnes questions et de pouvoir accompagner les victimes. Donc, ils vont récolter un maximum d'informations pour pouvoir après essayer de remonter à tout le phénomène et remonter toutes les actions qui ont été faites pour pouvoir atteindre la victime. Donc, ça va être de récolter des numéros de téléphone, ça va être récupérer des données qui vous ont été transmises ou demandées, des liens Internet, des choses comme ça. Et en fait, voilà, l'accompagnement va se faire autour de la victime pour récupérer tout ça. Ensuite, en fonction du type d'infraction, en fonction du phénomène ou du type de cybercriminel, eh bien, il va y avoir la mise en place de différents moyens techniques et de différents groupes aussi d'enquêteurs qui sont spécialisés dans telle ou telle matière. Il y a des enquêteurs qui sont spécialisés dans tout ce qui va être la crypto, d'autres qui vont être plus dans tout ce qui est grand banditisme, même lié à la cyber. Et en fait, voilà, ça va prendre une ampleur différente en fonction du phénomène et de l'action nécessaire pour pouvoir remonter jusqu'au cybercriminel.
Quel est, pareil, peut-être une question piège, quel est le taux de réussite de ces enquêtes cyber? Est-ce que c'est encore une jungle à défricher? Est-ce qu'il y a des moyens concrets qui permettent d'arriver à un taux de réussite qui est correct?
Alors, il y a des moyens concrets. Alors, bien sûr, on est limité souvent par le code de procédure pénale. Mm-hmm. Voilà, comme chaque concitoyen a des droits, donc on ne peut pas non plus se permettre d'aller chercher tout et n'importe quoi. On est limité aussi, malheureusement, par les États, en fonction des États qui sont plus ou moins coopératifs, mais il y a toujours des biais en fonction vraiment du volume du phénomène d'arriver à nos fins, et on arrive toujours de toute façon à arriver jusqu'à l'interpellation des criminels.
Est-ce qu'il y a un profil type de victime de cybermalveillance? J'ai l'impression que non, mais peut-être que vous allez me le dire. On voit, hein, les seniors, les jeunes, alors avec, j'imagine, des malveillances qui sont peut-être différentes en fonction des milieux, des âges, des catégories socio-professionnelles, mais tout le monde est touché. C'est une statistique qui est claire là-dessus.
Alors,
pour vous.
Tout le monde est touché. On voit, ouais, nous, tout type de victimes. Toute classe sociale, vraiment, ça peut toucher n'importe qui. Alors, c'est vrai qu'actuellement, les personnes âgées, nos seniors sont un peu plus impactés, notamment sur tout ce qui est financier, bancaire. Après, les jeunes, ça va peut-être être plus tout ce qui va être par rapport aux escroqueries à l'amour, par rapport à tout ce qui va être d'ordre sexuel. Mais toute classe est touchée, même au sein des entreprises, on arrive à avoir des infractions complètes.
Ouais, nous, notre perception est vraiment identique. Personne, et j'insiste, hein, même des ingénieurs en cyberdéfense Bac+25 peuvent se faire avoir, personne n'est à l'abri d'être victime d'une cybermalveillance aujourd'hui. Tout simplement parce que les attaquants vont utiliser des canaux, des codes propres à chaque public. Alors, par contre, des publics peuvent être plus sensibles à un certain type de cybermalveillance. C'est ce qu'on voit avec l'arnaque au faux support technique. Les jeunes, ça va être plutôt des arnaques qui passent par les réseaux sociaux. J'ai vu récemment des victimes sur TikTok ou Instagram, je ne sais plus, de vidéos complètement bidons, soi-disant réalisées par des personnes âgées qui vivent de préférence dans le Larzac, etc., qui élèvent des chèvres ou des moutons, dont l'exploitation est en danger. Si vous n'achetez pas le petit produit local qu'elle fabrique le soir en pleurant, en sanglotant sur l'atelier. Mais c'est super bien fait, c'est remarquable, tout simplement parce que ça utilise le rythme, le tempo, les codes de ces types de réseaux sociaux. Ouais. Et là, on voit des jeunes, souvent ce qu'on appelle les actifs numériques, qui sont habitués au téléphone, aux réseaux sociaux, aux outils informatiques, qui se font avoir. Mais c'est vieux comme le monde, ça s'appelle l'arnaque à la charité. Et c'est super bien fait. Donc non, personne n'est à l'abri, et toujours pareil, dans la même optique, sans être parano, sans être schizophrène, être effectivement vigilant quand ça a l'air trop beau, trop, au contraire, trop stressant, avoir cette prise de distance qui consiste à dire « Oh là, est-ce que je ne suis pas en train de me faire arnaquer ?»
On a parlé dans le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure, le mot dark web a été mentionné. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. C'est une jungle, on complète, on a des moyens de d'y entrer, oui, évidemment, notamment pour les enquêteurs, je pense, mais voilà, de contrôler ce qui se passe et d'avoir une vigilance là-dessus. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur cette notion dark web?
C'est un mot qui fait très peur.
Ouais, c'est pour ça que je voulais qu'on contextualise.
En fait, le dark web, c'est l'internet classique, sauf qu'on n'a pas un accès qui est contrôlé par un moteur de recherche pour pouvoir y aller. En fait, c'est accessible par monsieur tout le monde. C'est juste un moyen technique qu'on utilise.
Je tape darkweb.com pour y aller ou comment ça se passe?
Alors voilà, non, j'ai juste certains petits logiciels dont je tairai les noms, mais voilà, qui sont grand public, qui sont légaux et qui permettent d'aller sur le dark web. La difficulté du dark web, ça va être plus d'être au bon endroit au bon moment. C'est souvent des liens qui durent très peu dans le temps. Et si on n'a pas la connaissance qu'il faut être à tel endroit, à tel moment, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, ça se passe beaucoup aussi en bouche à oreille. Hein, voilà, on sait par les réseaux sociaux, il faut aller ici, à tel moment, à tel endroit, et on pourra avoir tel type d'informations, d'achat, de matériel, de vente. Et voilà, tout se fait après sous le manteau. Mais en fait, tout le monde peut accéder. C'est juste que ce n'est pas centralisé par les moteurs de recherche classiques, c'est tout. Mais par exemple, il y a une différenciation entre le dark web, c'est tout de suite pour faire peur, et le deep web, tout le monde, c'est le même système. En fait, le deep web, quand vous allez sur votre banque, tapez le nom de votre banque, vous allez directement sur la page d'accueil. Mais après, tout ce qui va être vos comptes, vos choses comme ça, sont sur Internet, sont directement consultable, mais vous ne pouvez pas y accéder directement. Vous êtes obligé de passer par la passerelle
de la banque
pour pouvoir atteindre tout ça. Et bien en fait, le dark web, c'est la même chose. Vous passez par une plateforme qui vous dit vous allez à tel endroit et si vous avez le bon moment, ben vous avez des bonnes personnes qui sont derrière.
Vous voulez rajouter quelque chose, Mélodie, Laurent?
Pour moi, et ça n'engage que moi, je pense que le dark web, c'est un peu la tarte à la crème de la cybercriminalité ou des cybermalveillances. Pourquoi? Nos amis dans les médias présentent souvent les hackers, en anglais dans le titre, avec des pouvoirs pseudo-mystiques, des gens qui vivent avec une capuche toute l'année sur la tête et qui s'expriment en ligne de commande. Et c'est à cette occasion qu'on parle du dark web. Alors, je ne nie pas son existence, comme vient de le dire Laurent, ça existe, ça sert à des trafics, des choses comme ça. Maintenant, l'arnaque aux faux conseillers bancaires, l'arnaque aux faux supports techniques, l'hameçonnage, la carte vitale bidon, la contraversion bidon, c'est pas du dark web. Ça fonctionne sur des leviers psychologiques d'angoisse, d'incompréhension, de stress. Donc pas besoin d'aller chercher des choses très très loin et très 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 techniques quand elles sont si proches de nous. Donc voilà, et surtout voilà, ne pas attendre d'être victime d'une attaque super sophistiquée pour se méfier, l'être au quotidien.
Parler des réseaux sociaux, etc. Alors, on jette vite la culpabilité à la cause de beaucoup de nos mots sur les réseaux sociaux. Malgré tout, est-ce que des plateformes comme TikTok et Instagram, où le scrolling est devenu un peu la règle, les publics ne s'habituent pas à ne plus trop regarder ce qu'ils ont sous les yeux et à ne plus faire la différence entre des vidéos certifiées, des choses tout à fait anodines mais réelles et... J'en viens aussi à l'autre coupable tout désigné ces derniers temps, l'intelligence artificielle, qui nous propose aussi beaucoup de choses qui nous amènent vers de l'arnaque, de la malveillance et de la cybercriminalité.
Là, on est aussi sur on va dire des attaques informationnelles. Et là, c'est une autre agence qui est Viginum qui est en charge de ça à l'échelle de l'État. Et je pense qu'effectivement, avec les technologies qui sont disponibles, les leviers qu'on connaît bien, je pense que Laurent a déjà bien présenté les choses. Il y a une vigilance à avoir, et notamment à l'aune des futures élections qui vont se passer en 2026. On est tous citoyens, on sera amenés à voter. On a vu sur les scandales avec Cambridge Analytica il y a quelques années, la manipulation de l'opinion, elle existe. Et donc, il y a une vigilance à avoir auprès de chacun de nos concitoyens.
Est-ce que l'IA complique la tâche des services d'enquête et de répression?
Alors oui, ça complexifie nos recherches. Parce qu'en fait, maintenant, le contenu proposé par les cybercriminels est d'une meilleure qualité. Autant avant, sur les arnaques à l'amour, où on avait des textes et des emails avec 12 fautes par mot. Là, on se retrouve avec des textes qui sont concrets, qui sont cohérents, qui sont calqués sur ce que pourrait faire l'organisme réel ou une vraie personne, et avec une réponse derrière qui est automatique maintenant de plus en plus, et qui est très cohérente. Donc oui, ça complexifie. Après, ça ne change rien sur les moyens utilisés, sur les techniques utilisées, sur les protocoles utilisés par les cybercriminels et sur la hiérarchie qu'ils ont entre eux également pour récolter des données ou des fonds par la suite. Et voilà, ça reste une évolution.
L'IA est transversale à toutes les malveillances hein, dont on parlait, le hameçonnage, le piratage de comptes, tout ça.
Alors, elle s'est incrustée partout. Pour l'instant, nous, on perçoit pas l'intelligence artificielle comme une arme autonome. Mm-hmm. Je m'explique et je parle sous contrôle de l'autorité nationale. Elle est présente à la fois chez les attaquants, mais également potentiellement chez les défenseurs, hein, mm-hmm. puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'outils basés sur l'IA qui vont aider les personnes qui protègent les réseaux et les systèmes à faire leur métier. Néanmoins, tout à l'heure, j'ai parlé de mise en scène, de scénarisation, de théâtralisation, notamment dans le cas de l'hameçonnage. Bien entendu, le danger est présent puisque l'IA va perfectionner, va donner de la profondeur, va donner de la crédibilité, va contextualiser, risque de contextualiser énormément des campagnes d'hameçonnage. Donc, bah voilà, on en revient au même mot, la vigilance, la prise de distance, la vérification, parce que là, effectivement, ça devient de plus en plus dur à déceler.
Le croisement des informations est très important aussi. Il ne faut pas écouter le premier média qu'on voit, il va falloir vraiment croiser les informations, essayer d'en récupérer un maximum possible pour justement faire la part des choses, savoir si c'est de l'IA, si c'est du contenu réel et si ce contenu est réel ou pas.
On a parlé de la plateforme donc 17 Cyber. On a aussi mentionné dans nos échanges préparatoires le cyber départ. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles aujourd'hui pour faire une évaluation finalement de sa maturité en matière de cybersécurité. Et donc le diagnostic cyber départ est un outil qui a été créé par l'ANSSI et qui est opéré par un certain nombre de cyber aidants qui sont bénévoles et qu'on a accompagnés, qui sont des gens de confiance, hein, notamment bah, les gendarmes sont amenés à faire ces diagnostics, mais un certain nombre aussi d'entités de l'État ou des associations d'intérêt public. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un petit outil assez simple à mettre en œuvre qui permette d'évaluer sa propre maturité en matière de cybersécurité. C'est un outil, donc c'est un diagnostic qui se fait à peu près en 45 minutes, une heure, et sur lequel on sort les 6 mesures prioritaires à mettre en place dans votre organisation pour derrière augmenter mécaniquement votre niveau de sécurité. Et je tiens à mentionner que ces mesures, par rapport à ce que l'on voit sur les plus de 4000 diagnostics qu'on a fait depuis à peu près 2 ans, ce sont des mesures relativement simples et peu coûteuses à mettre en œuvre, comme déjà identifier ce que l'on a à protéger, parce qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. De ne pas être administrateur, par exemple, de son poste pour ne pas faciliter la vie des attaquants, pour que s'ils rentrent dans un système, après ils ont le passe-partout, ils peuvent accéder à tout. Donc déjà, si on ferme toutes les portes et qu'on a des clés différentes pour chaque porte, ça évite la propagation de l'attaquant. Et il y a des petites mesures simples qui ne sont pas coûteuses. Le MFA aussi, donc avoir des authentifications multiples, comme on parlait tout à l'heure sur France Identité, c'est pas juste un login mot de passe, mais il y a derrière un autre système qui permet de valider la demande d'accès. Voilà, il y a des choses comme ça qui aujourd'hui sont aussi des choses que l'on voit dans notre vie au quotidien en tant qu'utilisateur à titre individuel. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des comptes de messagerie sont protégés notamment par MFA. Donc, il y a des choses assez simples qui sont habituellement utilisées à titre personnel, qui ne sont pas encore transposées à titre professionnel. Et je pense que voilà, c'est une façon d'accompagner les entités à aller vers les bonnes pratiques.
Est-ce qu'il faut, pour éviter d'être au maximum victime de ce genre de choses, refuser ou réfuter son usage numérique, hein, et rentrer dans une rébellion par rapport à tout ça?
Je vais vous raconter une petite histoire d'une deuxième idée folle. En 2021, je me suis présenté au Numérique en commun national à Angoulême, où j'ai rencontré des médiateurs, des médiatrices, des conseillers numériques et tous ces aidants qui au quotidien accompagnent nos concitoyens qui sont justement souvent en posture anxiogène avec le numérique et qui ont tendance à dire « Oulala, non, je veux plus y aller, ça me fait peur, je vais être victime d'une arnaque ». Et ces médiateurs m'ont dit « Oh, monsieur Verdier, enfin quelqu'un de cybermalveillance pouvait faire on utilise déjà beaucoup vos contenus, mais ils sont quand même, même illustrés, même simplifiés, ils sont quand même trop littéraires, trop verbeux pour nos usagers. Si simplement vous pouviez nous créer une petite mallette, un kit pédagogique qui nous permettrait justement, avec notre savoir-faire métier, de pouvoir faire passer cette connaissance des cyberattaques et surtout des bonnes pratiques. Cette idée folle, elle a pris forme grâce au programme Société Numérique de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et on est parvenu, en la co-concevant avec des médiateurs, à créer cette mallette destinée à nos 16 millions de concitoyens qui sont, si on se fie aux chiffres de l'ANCT, en décrochage et en éloignement du numérique. Et on est parvenu également, au travers d'une campagne quillage menée avec l'ANCT et la MEDNUM, à outiller plus de 3 000 lieux de médiation avec des exemplaires financés de la mallette, dont les plans, je le rappelle, sont gratuits et en libre téléchargement, aussi bien sur notre plateforme que sur les bases de l'ANCT. Alors, aujourd'hui, il faut démystifier, il faut surtout rappeler que le numérique se doit d'être, un numérique de confiance et pour cela, faire preuve de pédagogie, d'explication, d'illustration, favoriser le dialogue et c'est tout ce que contient justement les activités qui sont dans cette mallette pour permettre aujourd'hui aux aidants numériques, quels qu'ils soient, de mieux accompagner leur public vers cette autonomie, cette perte de peur et d'anxiogène, de blocage. Tout se numérise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore vivre dans cette société sans avoir ou en refusant un accès au numérique total. Après, c'est pas à moi d'y répondre, mais en tout état de cause, j'espère que nous avons donné aux médiateurs, aux médiatrices, un outil qui leur permettra d'avancer par rapport aux situations les plus bloquées.
Un petit mot chacun, chacune, si vous le souhaitez.
Alors, il y a un élément auquel qu'on n'a pas abordé, c'est celui que, enfin, on a abordé rapidement comment on gère la crise. Mais je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de se préparer parce que le numérique, c'est un outil. Un outil, c'est comme tout, en fonction de l'usage qu'on souhaite en faire, on peut faire le meilleur comme le pire. Donc forcément, on sera toujours vulnérable en un sens. Et d'autre part, la sécurité, c'est la sécurité 100%, ça n'existe pas. Il faut bien aussi avoir conscience de ça.
Dans le numérique ou pas ?
D'une manière générale, je pense. Il y a toujours des menaces qui arriveront, qu'on n'aura pas anticipées, il faudra y faire face. Donc la sécurité 100%, ça n'existe pas. Donc la question, c'est vraiment de comment je fais face à la crise. On a vu, il y a un certain nombre de réflexes quand elle arrive, mais moi, j'aimerais parler surtout de ce qu'on fait avant, de comment on anticipe, comment on prépare les personnels, parce que, encore une fois, tout à l'heure, on l'a évoqué, est-ce que le problème se situe entre la chaise et le clavier ? Moi non plus, je ne pense pas que ce soit le problème, c'est comment on outille ces personnes pour qu'elles soient en connaissance, qu'elles soient vigilantes, qu'elles sachent comment réagir. Donc là, il y a toute une action vraiment de repenser finalement notre usage du numérique, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on réagit s'il se passe quelque chose. Et ça, c'est un effort collectif, je pense. C'est quelque chose qui se construit. C'est aussi de la cohésion. On le voit, post-crise, les entreprises qui sont attaquées nous disent souvent, on a créé du dialogue, on a appris à travailler différemment avec nos collègues. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on peut aussi transposer en avant-crise. Et je pense que s'il y a quelque chose sur lequel les médiateurs numériques peuvent aussi être là en appui, c'est justement d'anticiper tout ça, de prévenir. Et je pense que vous avez tout votre rôle dans cette phase-là.
Quelque chose à rajouter ?
Alors oui, la prévention et surtout après, au moment de la crise, parce que malheureusement, il y aura forcément une crise à un moment donné, c'est ne pas avoir honte. Et en discuter avec son voisin de bureau, en discuter avec son responsable, et après en discuter avec la gendarmerie, avec des aidants, quel qu'il soit. Parce que souvent, nous, on s'en rend compte justement à l'accueil des brigades, c'est que les personnes n'osent pas. Elles ont peur, elles ont justement été informées, elles savent qu'elles ont fait une bêtise, mais elles ont honte de le dire, de le décrire et d'expliquer comment ça s'est passé. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas avoir honte et discuter, et en parler et informer justement les personnes qui sont autour de soi.
Ça me fait penser à cette dame dont on a malheureusement beaucoup parlé, qui s'est fait arnaquer avec un faux Brad Pitt. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup moqué au début et puis j'ai eu l'impression qu'il y avait eu une prise de conscience collective que ça pouvait arriver à tout le monde et cette dame a choisi de ne pas ou ne plus avoir honte. Elle a édité un livre, je crois, ou en tout cas quelque chose. Elle a publicisé cette histoire pour comme un message d'avertissement à tous et à toutes effectivement et je pense que c'est important de souligner que c'est facile de se moquer, on se dit je serais jamais tombé dans ce panneau et en fait
oui, même subi du harcèlement
en plus
personnel par la suite en plus
tout à fait
je
Allez-y.
Deux petites choses pour terminer. La première, je pense plus particulièrement à nos adolescents aujourd'hui. C'est un public qui est très, très difficile à toucher parce que l'adolescence, ça reste l'adolescence. Et les messages institutionnels de prévention, de sensibilisation. Et je tenais à souligner que la CNIL a publié un manga récemment. Anne-Charlotte pourra vous donner tous les renseignements, qui est de très, très bonne qualité, parce que l'adolescence, il y a des adolescences. Et je trouve que ce support illustré et très bien fait peut leur parler. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, je dirais, c'est ensemble qu'on est plus fort.
On va parler de la plateforme Pharos, effectivement assez connue médiatiquement. On en parle beaucoup, notamment pour les cas de harcèlement chez les adolescents, notamment, je crois. Donc, est-ce qu'on peut développer de l'utilité de la plateforme Pharos et éventuellement de ses limites?
Alors oui, historiquement, c'est une des premières plateformes de signalement qui a été créée pour la France, qui est pourtant très performante, mais c'est vrai que on a certainement des petits défauts. On peut pas expliquer vraiment clairement non plus dans un premier temps tout ce qui se passe. Mais à l'origine, c'était plus une plateforme qui était liée pour avoir des statistiques sur tout ce qui arrivait aux gens, et ça s'est développé au fur et à mesure pour jusqu'à avoir des enquêteurs qui travaillent, des policiers, des gendarmes qui travaillent derrière, qui regroupe justement les informations reçues sur Pharos et qui permettent après d'actionner telle ou telle entité judiciaire et d'enquête et pouvoir après travailler sur des phénomènes et de répertorier tout ça de manière également statistique mais aussi judiciaire. Et depuis, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Il y a eu d'autres plateformes qui se sont créées justement par rapport à différentes thématiques, la plateforme Perceval pour tout ce qui va être financier. Qui maintenant se regroupe depuis un an sous le 17 cyber et qui permet justement, en fonction de la matière qui nous a touchés, de ne pas forcément aller sur la planète, sur la thématique de signalement dont on évoque actuellement, mais également sur différentes thématiques un peu plus éloignées. Donc oui, après moi je ne dépends pas de cette plateforme là, mais il est vrai que oui, il y a peut-être des petits points à revoir ou des petites choses comme ça, mais ça permet quand même de dégrossir beaucoup d'infractions par l'utilisation de cette plateforme.
Est-ce que pour des questions d'harmonisation, justement, la disparition d'une plateforme pour tout regrouper, par exemple sous le 17 cyber, ce serait pas pertinent?
Alors, je me permets de compléter. Il ne faut pas oublier que Pharos, internetsignalement.gouv.fr, à l'origine a été créé pour permettre à n'importe quel internaute de signaler des contenus illégitimes sur Internet. En gros, je navigue, je tombe sur des images à caractère pédopornographique, je vais signaler ces éléments à Pharos, où effectivement, des enquêteurs, à la fois policiers et gendarmes, vont d'abord qualifier les faits, en référer une autorité judiciaire, et derrière, c'est cette autorité judiciaire, un magistrat, qui va dire si oui ou non ça vaut le coup d'enquêter et quel service va être compétent. Mais il ne faut pas donner à une plateforme d'autres missions que celles qu'elle s'est données. Et justement, la vertu première, je pense, du 17cyber.gouv.fr aujourd'hui, c'est de jouer le rôle d'une grosse gare de triage qui va vous orienter vers le service le plus adapté en fonction de ce par quoi vous avez été impacté et surtout de ce que vous voulez en faire. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas déposer plainte. C'est pas ce que nous recommandons, mais il y a des gens qui veulent uniquement signaler, qui veulent pas déposer plainte. D'autres qui veulent à tout prix avoir au téléphone une personne, un aidant en matière de cyberharcèlement qui va les conseiller, ou par France Victime, qui va les conseiller utilement sur les démarches juridiques à enclencher en tant que victime. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque plateforme, quelque part, a son précaré, entre guillemets, de compétences et ne peut pas forcément aller plus loin.
Merci donc à Laurent Verdier de la plateforme Cybermalveillance, Laurent Remise donc de la gendarmerie du Loir-et-Cher et Mélodie Fourez de l'ANSSI. Merci à tous les trois.
Merci.
Et merci à vous.
C'est la fin de cette lorgnette. Merci à la Cité du Numérique pour l'accueil dans leurs locaux et à l'association Les Promeneurs du Net 41 pour l'organisation de cette table ronde que nous avons eu plaisir à animer. Bonne fin de journée sur les ondes de Studio ZEF.